Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On your marks.
Salut à tous, c'est l'Heure Olympique, votre podcast quotidien pendant les JO de Tokyo, une journée marquée par les qualifications des handballeurs, des basketteurs et des volleyeurs français pour la finale de leurs tournois respectifs. Il y a aussi eu Steven Dacosta en or, en karaté, Kevin Mayer en argent sur le décathlon. Quelle journée! Je suis Adrien Yo et pour commenter l'actu des Jeux, Laurent Vergne est à mes côtés. Nous débuterons avec l'événement du jour, je le disais, ces trois qualifications pour la finale. Nous avons convié pour cela nos consultants Laurent Chambertin et Fred Weiss pour débriefer le volley et le basket. Nous enchaînerons avec la question qui fâche autour du cyclisme sur piste. La piste française se dirige-t-elle vers une grosse déception? Arnaud Tournant sera là pour en parler. Et dans Retour de Tokyo, Maxime Dupuis a eu la chance de recevoir Samir Aïd Saïd mercredi. L'Heure Olympique, c'est parti. C'est l'événement du jour, les trois sports collectifs français qualifiés pour la finale des Jeux Olympiques. Et pour en parler, on a l'honneur de recevoir deux représentants d'entre eux, autour de Laurent Vergne qui est à mes côtés. Messieurs, comment allez-vous? Fred Weiss d'un côté, Laurent Chambertin de l'autre.
Je crois qu'on va bien, je crois qu'on va tous bien, non Laurent?
Plutôt bien, ouais.
On est pas mal.
J'ai plutôt bonne mine, ça va.
Ouais, c'est
beau
bien.
Gosse, vous avez l'air
fort. Un peu fatigué quand même. En tout cas, ça commence à tirer, quoi.
Vous nous avez fait vibrer dans vos commentaires sur les antennes d'Eurosport, que ce soit le France-Slovénie en basket ou le France-Argentine en volée. On commence par où? On commence par le basket?
On commence par le basket, ouais, bien
par
sûr.
Allez.
Bien sûr.
Bon, on est obligé de parler de cette fin de match irrespirable. Et puis Batum, incroyable, qui réussit un contre et qui empêche ce dernier panier. Fred, tu as retrouvé ta voix? Comment t'es?
Moi, j'ai retrouvé ma voix à peu près. Non, mais effectivement, c'était très difficile sur cette fin de match. Bien sûr, on s'attendait que ce soit compliqué. Hein. Depuis que Luka Doncic jouait avec la Slovénie, il n'avait pas perdu un match. Donc forcément, c'est un exploit de les battre. Mais c'est surtout qu'encore une fois, on a eu un Nicolas Batum incroyable de bout en bout. Premier contre, c'est lui sur Doncic, ouais, pour l'éteindre un petit peu. Et il termine par un contre aussi. Fantastique. Vraiment un énorme plaisir. On a eu peur, oui, mais le plaisir
c'est
est
encore,
là.
C'est encore mieux comme ça, finalement.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
C'est vrai.
Médite sur cette parole.
Bah, Laurent toi, ouais, c'est plutôt ça aujourd'hui. C'était plutôt facile par rapport au match contre la Pologne, si je peux me permettre.
Mais complètement. C'est vrai que c'était un peu le schéma inversé du quart de finale où les basketteurs ont maîtrisé leur sujet assez facilement. Et nous, on a bataillé, hein, on a poussé le match jusqu'au tie-break avec des émotions, des hauts, des bas, bien évidemment, mais des émotions intenses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'était beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posé, beaucoup plus maîtrisé. Alors effectivement, on est dans le bonheur, hein, on est dans la joie, mais il manque ce petit piment-là qui a voilà, l'adrénaline.
Tu fais la fine bouche, Laurent, là, quand même.
Non, du tout, parce que je sais tout apprécier. Parce que pendant, nous, la retransmission du volet, on avait l'écran, on avait l'œil rivé sur la fin de match du basket. Et des fois, il y avait des silences parce qu'on regardait, on regardait le basket. Et quand on a vu Nico Batum faire le dernier bloc gagnant, voilà, nous aussi, on a explosé dans notre cabine. On a fait un peu de bruit à nos voisins.
Ouais, ils nous ont un peu dérangés d'ailleurs. Nous, on voulait célébrer entre nous et eux, ils ont fait du bruit.
C'est ça.
Insupportable, quoi.
Avant qu'on revienne au basket, une petite question pour toi, Laurent. Est-ce que tu t'attendais justement à une victoire en 3-7 comme ça aujourd'hui contre l'Argentine? À quoi tu t'attendais comme match?
Alors, moi, je m'attendais à… Alors, peut-être pas un match 3-0, bien évidemment, mais je savais que les Français allaient gagner. Je savais qu'on avait l'avantage, déjà, en termes de profondeur de banc. On a une profondeur de banc qui est beaucoup plus large. Et les Argentins qui déjà contre les Italiens avaient des signes de fatigue déjà qui apparaissaient sur certains de leurs joueurs. Donc je me disais, avec l'influx qu'ils ont lâché, plus les matchs qui s'enchaînent, on avait cet avantage de fraîcheur mentale et de fraîcheur physique. Ensuite, je pensais que ça allait être quand même un petit peu plus bataillé, un petit peu plus compliqué. Mais en fait, on a abordé le match comme il fallait, tactiquement. Et les Argentins, ils n'ont jamais pu se dépêtrer justement du filet qu'on leur avait tendu. Donc, après le premier set, franchement, j'étais très, très serein.
D'accord. On n'oublie pas les troisièmes, hein, les handballeurs. Alors, on en a pas mal parlé hier avec Noji Miaro sur la qualification des Françaises. Là, c'est les Français qui sont aussi en finale, mais entre guillemets, c'est presque plus. Ouais. En tout cas, c'est moins une exception. C'est la quatrième fois d'affilée qu'ils vont en finale. Ils ont battu l'Égypte en demi-finale. Donc, on a choisi plutôt de se concentrer sur le volley et le basket. Pour revenir au basket, est-ce qu'il y a eu un. Enfin, je veux dire, la France, c'était deux équipes qui se tenaient. On a eu très peur parce que moi, je me rappelle dans la rédaction, il y a Glenn qui dit si on a moins de 3 points d'avance à 20 secondes de la fin avec Doncic, je ne serais pas serein du tout. On a quand même senti une maîtrise, non,
Fred? Oui, on a senti une maîtrise, mais on a sorti aussi des choses un peu bizarres. Comme je le disais, Batum a réussi à faire sortir un peu Doncic de son match. Alors oui, il fait des stats encore énormes, mais finalement, le dernier shoot, ce n'est pas lui qui le prend. Ouais. Ce qui est plutôt très surprenant. Mmh. Et il fait confiance à Prepelic, qui a bien joué, hein, qui a bien joué le coup, qui a permis à son équipe de revenir. Mais dans ce cas de figure, surtout lui qui joue en NBA, c'est le go-to guy, le ballon à Doncic, et c'est lui qui va jouer et faire la différence. Très surprenant cette fin de match. En tout cas, encore une fois, on a été effectivement serein dans le sens où, même quand ils sont revenus, on a fait les choses pour continuer à être devant. On a fait les stops défensifs. Encore une fois, ça se joue à peu, hein, parce que c'est une très belle équipe en face. Mais voilà, le taf est fait.
Qu'est-ce qui te bluffe le plus, Fred, dans cette équipe de France ? Sur ce match, mais depuis le début de la compétition, ils ont commencé par battre les États-Unis, ce qui était un exploit, mais qu'aurait pu aussi, d'une certaine manière, évidemment, ça donnait une énorme confiance, mais ça aurait pu être un piège aussi. Ils ont eu réponse à tout jusque-là. Qu'est-ce qui t'épate le plus chez eux ?
Sans mauvais jeu de mots, c'est cette faculté de rebondir. C'est-à-dire qu'après une victoire comme contre les États-Unis, il y a quelques années, il n'y a pas tant de temps que ça, on se serait effondré. On aurait perdu le match suivant et on aurait commencé à déjouer en disant voilà, on a fait notre match et on a fait notre compétition olympique. Pardon. Mais là, on a continué à être concentré. C'est la concentration qui me bluffe aussi parce qu'on est capable de bout en bout dans un match. Il y a des moments de faiblesse et c'est pas Laurent qui va me dire le contraire. Il y a des moments où les momentum sont plutôt pour l'équipe adverse. Mais malgré ça, on reste concentré. On arrive à appuyer où ça fait mal et on se désolidarise jamais. Et il y a une autre chose qui m'a bluffé, alors je suis désolé, il y a plein de choses qui m'ont bluffé, mais une autre, c'est cette faculté à trouver un leader différent à chaque fois. Ouais. Quand Fournier a été bon, c'est lui qui a été mis en avant. On a vu TLC qui a été très bon aussi, alors qu'il sort du banc et finalement il a apporté beaucoup. Nando De Colo qui passe un peu à travers son quart, qui est exceptionnel sur cette demi. Voilà, on a trouvé toujours les bonnes personnes au bon moment.
Ouais, et ce que tu disais, Fred, parce que je t'ai écouté hier dans le club JO, où tu parlais de Nico Batum et que sa très très grande force était d'être capable de rester en retrait quand on n'avait pas besoin de lui, mais de toujours être là quand il y avait besoin, que ce soit offensivement ou défensivement, surtout défensivement, on l'a vu aujourd'hui, mais cette capacité qu'il a à se mettre dans la lumière juste quand on a besoin qu'il soit dans la lumière.
Objectivement, si tu veux que Nicolas Batum te mette 20 points par match, il en a les capacités, hein, c'est clair, sauf qu'il n'y a qu'un seul ballon en basket. Et quand tu as Nando De Colo, quand tu as Evan Fournier qui sont sur le terrain, bah c'est eux les premières options offensives. Donc, il doit se mettre en retrait. En fait, je ne sais pas s'il doit le faire, mais en tous les cas, il a l'intelligence de le faire, qui permet de laisser jouer ces deux monstres. Mais quand un des deux ne répond pas, ou quand il y a besoin de plus de points, il est capable justement d'apporter autre chose. Il lit le jeu, il n'a pas besoin d'être dans la lumière. Cet épisode très heureux qu'il a eu avec les Clippers est magnifique. Parce que ça l'a relancé complètement. Ouais. On est ravis qu'il continue là-bas, parce que s'il nous revient à chaque fois comme ça, il peut jouer encore 10 ans, hein, Nico Batum.
Si on part un peu de volley, ouais. Là, pour le coup, c'est, à la différence des basketteurs, c'est une équipe qui a été un peu irrégulière au début et qui est montée un peu en puissance. On ne s'attendait pas forcément à l'avoir à ce niveau-là.
Alors si, justement, il y avait quand même beaucoup d'espérance, hein, sur ce groupe, sur cette équipe. Ils ont eu une grosse, grosse difficulté à rentrer dans le tournoi. Il y avait ce poids, hein, de l'événement olympique qui a pesé encore lourd sur leurs épaules. Mais bon, voilà, ils ont réussi au moment clé. à se reconnecter à leurs talents, à leurs ressources, à leurs qualités et à leur collectif. Voilà, on parlait de déclencheur, de coup de cœur. Moi, je pense que quand je vois les basketteurs jouer, quand je vois les handballeurs jouer, et quand je vois les volleyeurs jouer, moi, je parle de complémentarité. C'est un groupe. C'est vraiment des joueurs qui comprennent qu'un tournoi, ça se construit dans la complémentarité. Il y a effectivement des temps forts, des temps faibles dans un match, mais il y a aussi des temps forts, des temps faibles dans la compétition, dans la performance de chaque joueur. C'est très difficile de maintenir un niveau de super forme pendant tout un tournoi. Et d'aborder la compétition de cette manière-là, je pense que c'est très juste. Et pour revenir à ce qui s'est passé au sein du collectif Volley, si on ouvre la parenthèse justement facteur X des joueurs qui comptent, qui doivent compter dans les moments forts, on avait, nous, un déséquilibre. On comptait trop sur Arvin Ngapet. Dans les moments chauds, on se tournait uniquement vers lui. Et en fait, il ne s'est pas mis en lumière au départ, dans le début de ce tournoi. Et en fait, moi, aujourd'hui, avec un petit peu de recul, je pense que c'était un bien. Parce que ça a obligé les autres joueurs à prendre leurs responsabilités et prendre la place. Parce qu'il n'y a pas un leader dans une équipe. Il y a plusieurs leaders. Il y a un équilibre de leadership à construire. Et c'est ce qui s'est produit au sein du collectif Volley. Trevor Klevenau, il a pris la place. Jean-Patry, il a pris la place. De partager le leadership, de partager les responsabilités. Et c'est ça qui a permis justement au collectif de repartir sur de la performance contre les Russes et de se remettre à l'endroit pour aller aujourd'hui voilà, jouer une finale. C'est énorme.
Laurent, moi j'ai une question juste par rapport à... Vas-y. Quelle est la place de Tilly justement dans le bien-vivre de cette équipe?
Alors, je connais... Enfin, j'ai des infos. J'ai des infos en interne, mais je n'ai pas la connexion avec Laurent Tilly, donc c'est un ressenti que j'ai. Laurent Tilly, en fait, il donne beaucoup d'autonomie à ses joueurs dans le vivre ensemble. Il donne beaucoup d'autonomie dans ce secteur, dans cette partie de la performance qui est hyper importante. Il est très rigoureux, très organisé sur la planification, sur les plans de jeu, sur l'entraînement, sur la technique, bien évidemment, mais tout ce qui est équilibre de vie, recherche de liens, construction de la cohésion, il y a beaucoup d'autonomie de la part des joueurs. Et là aussi, on a senti à un moment donné que Laurent, alors c'est pas qu'il n'avait pas les clés, mais c'est presque un deal. J'ai l'impression que c'est presque un deal. C'est que moi, je peux vous amener des solutions tactiques, des solutions techniques, mais dans la vie du groupe, c'est votre responsabilité. J'ai cette impression-là. Alors, c'est peut-être pas aussi tranché, mais je pense que voilà, il y a ça qui se joue dans ce groupe-là. Et là aussi, à un moment donné, c'est OK. Nous, staff technique, on a notre responsabilité dans la préparation des matchs, dans l'équilibre des matchs, dans le fait d'apporter des solutions techniques ou tactiques. Mais quand il n'y a pas de gaz, c'est à vous, les gars. Alors, j'exagère un peu une fois de plus, mais je pense qu'on ne doit pas être loin de ce qui se passe dans cette équipe.
Et inversement, enfin pas inversement, mais la même question, Fred, que tu posais à Laurent sur Vincent Collet, qui lui aussi là depuis très 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 longtemps, qui connaît très très bien son groupe, qui a eu une grande expérience des jeux. Comment tu vois son rôle dans ce groupe-là?
Alors moi, je l'ai trouvé excellent. Vincent Collet, je l'ai trouvé excellent tactiquement. On lui reproche souvent de ne pas trouver les bonnes solutions au bon moment. Moi, quand je pense à un match, typiquement, c'est le match contre les Team USA, où on oppose à leur small ball un big ball, si vous me passez l'expression. Ce n'est pas très joli.
Explique.
En fait, au lieu de jouer petit, c'est-à-dire qu'on affronte une équipe qui joue petit, parce que par obligation, les États-Unis ont des joueurs de petite taille, on n'est pas de grands joueurs. J'ai failli dire encore de big men. Donc, quoi, c'est vraiment un truc de basketteur. Et nous, on s'est dit, OK, vous allez jouer petit, on va jouer grand. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer avec un poste 4, de petite taille, c'est-à-dire Gershon Yabusele ou peut-être même Nico Batum, on a tenté le coup de jouer avec un Vincent Poirier qui fait 2m13. C'est-à-dire que en association dans la raquette, on avait Vincent Poirier et Rudy Gobert ou Vincent Poirier et Mousfal. Et à partir de là, on a proposé des choses différentes que personne n'a fait et pour l'instant, ça nous a plutôt réussi. Et autre ajustement tactique, celui d'aujourd'hui. On s'est relayé sur Doncic, on l'a fatigué. Et finalement, est-ce que ce n'est pas une des raisons pour laquelle, à la fin, il ne prend pas le dernier shoot? parce qu'il a eu sur le rable tour à tour TLC, Nicolò Batum, même Frank Ntilikina qui a fait un petit passage sur lui, bah, tu dis que bah, voilà, tactiquement, monsieur va s'en coller parce qu'il a géré ça. Et en dehors, et si tu poses la question par rapport à ce qui se passe en dehors dans le groupe, je pense qu'aussi il est sur l'autonomie complète de ses joueurs, il a une confiance absolue en leur professionnalisme, et je pense qu'il a raison. Je pense que c'est une équipe qui pourrait presque s'autogérer, mais qui a besoin d'un manager dans les moments difficiles et sur les choix tactiques. Donc, beaucoup de chance de la part de Vincent Collet d'avoir cette équipe qui est capable de s'autogérer, mais force à lui et respect énorme pour ses choix tactiques.
Et Fred, juste avec moi, Adrien, justement, ce qui rend cette finale hyper intéressante, c'est aussi le fait qu'elle se soit affrontée en tout début de compétition et que tactiquement, je pense que Popovic, il l'a vu aussi ce dont tu parlais. À quoi tu t'attends samedi au niveau tactique, à ce niveau-là?
Alors déjà, je m'attends à plein de choses et pas uniquement tactique. La problématique, c'est qu'ils ont récupéré 3 joueurs des finales une journée avant. Donc, cette équipe de Team USA avait vraiment un problème de collectif, qu'il soit offensif comme défensif. Donc, je pense que là, ils auront le temps de préparer. Je pense que Popovic n'a pas envie de rentrer à la maison en perdant encore une fois contre la France, 2 fois dans la même compétition olympique.
Et 3 fois de suite.
Et 3 fois de suite en plus. Ben, je ne suis pas sûr qu'il rentre. Je crois qu'il est en train de demander un passeport slovène pour jouer avec, pour coacher Mike Toby. Donc oui, je pense que tactiquement, ça va être hyper intéressant ce qu'il va proposer. Maintenant, encore une fois, à voir la capacité de Vincent Collet à réagir à ça et à proposer des choses innovantes qui vont nous permettre de peut-être gagner ce match, pourquoi pas.
Et au-delà du tactique, toi, tu as vécu, Fred, une finale olympique à Sydney en 2000. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre dans les heures et les 2 jours qui précèdent une finale? Je ne sais pas, le risque peut-être d'avoir déjà joué sa finale avec ce match tellement fort en émotion et qui est une performance historique. Sans donner de conseils, hein, mais comment tu pourrais voir ça, toi?
Moi, je verrais ça, hein, ne pas écouter Laurent. Parce que Laurent, il va vous dire que quand on joue contre quelqu'un en poule et quand on gagne contre eux, on a une forte probabilité de perdre la finale. Donc, surtout, ne pas écouter ça et jouer ce match comme si on n'en avait pas joué. Ça serait génial de se dire qu'on a gagné effectivement les États-Unis 3 fois, alors 2 fois dans la même compétition. Donc, restons concentrés, faisons les choses qu'on sait faire et à partir de là, il y aura match, quoi qu'il en soit.
Les déclarations d'après-match, hein, c'était un peu ça. Hein. Je vois Nando De Colo qui disait « one more game ». On n'est pas tout de suite, ils ont été focalisés.
En anglais, c'est sûr que Nando De Colo,
il aurait pu également, mais tu vois, moi je les ai sentis dans les discours. On est encore focalisé. On n'est pas arrivé aux États-Unis. Bon, on n'a aucune chance. Non, on les a battus une fois. On peut leur faire et on va pas se satisfaire de cette demi. Pourtant, ils sortaient là, tu vois, c'était 5 minutes après avoir réussi cette fin de match incroyable. Ils auraient pu être dans l'euphorie. Tout de suite, il a retombé en disant non, il reste encore un match.
Oui, mais justement, c'est parce que ça a été difficile. Et moi, tu vois, je vais rebondir en posant la question à Laurent. Quand on gagne aussi facilement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de relâchement en disant « Eh les gars, on est là, on est au top, on est les meilleurs, on va les battre facilement au final ?»
Oui, il y a effectivement ce petit risque, hein, bien évidemment, sur la physionomie du match d'aujourd'hui. Mais il y a quand même l'expérience et la lucidité de ces garçons qui jouent dans les plus gros clubs, donc ont l'habitude justement de jouer des tournois et ne pas se contenter justement de ce qu'on a fait, mais tout de suite de se projeter. Et là aussi, Adrien, tu parlais de déclaration post-match. Zhenya Grebennikov, voilà, il a dit exactement la même chose. Bien évidemment il faut valoriser, savourer ce qu'on vient de produire, mais tout de suite se mobiliser vers ce qui nous attend et aller chercher l'or. Donc oui, il y a ce petit piège, effectivement, Fred, tu as raison. Ce petit piège de l'autosatisfaction et puis de se dire, bon, ben, c'est cool, on maîtrise. Franchement, je ne pense pas que les joueurs français, les volleyeurs vont tomber dans ce piège. Surtout qu'ils ont déjà battu les Russes. Donc, voilà, ils savent
la théorie de Fred, qui était d'accord ou pas avec ça, ils vont les battre 2 fois.
C'est de la stat. Donc, toute statistique, un jour, voilà, est contredite. Mais non, de toute façon, ils savent, ils connaissent justement cet adage-là, et ils savent que les Russes ils vont vouloir nous mettre des coups sur la tête. Ils sortent d'un match, les Russes, aujourd'hui, très fort, très très fort. Ils ont renversé une situation au 3e set contre les Brésiliens, où les Brésiliens menaient 20-12. Ils vont gagner ce set-là 26-24. Donc les Français savent que le match qui les attend sera extrêmement compliqué à
avoir. Et alors, si vous parlez avec la raison plus qu'avec le cœur,
ouais,
comment vous voyez ces deux finales tous les deux?
Portez pas la poisse, hein.
Non, sincèrement, on doit répondre avec le cœur, mais pas porter la poisse. Et on répond avec la raison.
Non, sincèrement. En répondant avec la tête. Sincèrement, comment vous voyez cette finale?
Bon, je vais répondre en premier.
Moi, je la vois batailler. Je la vois difficile. Je ne pense pas que ce sera un match à sens unique. Franchement, je ne pense pas que ce soit un match à sens unique. Après, bien évidemment, on parle de cœur, on parle de raison. Donc, mon cœur va, bien évidemment, à une victoire de l'équipe de France. Et la raison me fait dire, même si toutes les statistiques sont un jour contredites, ça va être très, très difficile de battre les Russes. J'y crois. On a la possibilité, on l'a déjà. En plus, on a le jeu pour. Les Russes sont toujours en difficulté contre nous parce qu'on a un style de jeu spécifique. On fait beaucoup de feintes. On joue beaucoup de blocs soutien. On ne va pas dans le rapport de force que les Russes aiment, adorent même. Dès qu'on les joue en rapport de force, en règle générale, on perd. Quand on les joue un peu à la roublardise, à la patience, en essayant de faire des joueurs, en essayant de casser le rythme, là, ils sont beaucoup plus en difficulté. Donc, on connaît l'ingrédient. Maintenant, il va falloir le mettre en place. Il y a quelque chose qui... Alors, c'est pas que ça m'inquiète, mais c'est une nouvelle donnée chez les Russes, justement. Ils ont un nouveau coach qui n'est pas de la culture russe et qui leur apporte à la fois une rigueur. Alors ça, ils ont une discipline, les Russes, mais dans le volet, ils manquaient à certains moments de rigueur tactique. Donc ça, le coach Thomas Samuelgo, qui a baroudé, hein, moi j'ai joué avec lui en France, c'est un super joueur, il a commencé sa carrière et lui, il amène cet ingrédient-là de rigueur tactique. Et le deuxième ingrédient, c'est la capacité à maintenir le combat. Les Russes, dès qu'on les chatouillait, dès qu'on les grattait, dès qu'on les faisait déjouer, ils se démotivaient, ils s'énervaient, ils baissaient les bras, et voilà, ils tombaient dans de la frustration assez facilement et du coup, ça rendait les matchs assez simples. Là, ils restent focus, ils restent batailleurs même. Donc, ça, c'est une donnée nouvelle qu'il va falloir...
Que tu disais contre le Brésil, là, le troisième.
Exactement, exactement. Alors, contre nous, ils ne l'avaient pas fait, mais contre nous, ils étaient déjà qualifiés.
Oui, c'était différent.
Ouais. Ils étaient déjà qualifiés, donc ils ont poussé un peu, mais tu sentais qu'ils n'étaient pas à 200% pour jouer leur vie. Là, demain, ils vont jouer l'or. Donc, logiquement, ils vont aller dans leur, voilà, pousser la machine dans les derniers retranchements. Donc, ça va être compliqué.
Fred ?
Je ne sais pas quoi dire. J'ai beaucoup de difficultés à dissocier mon cœur et ma raison. Donc, d'un côté, bien évidemment, j'aurais envie de dire oui, on devrait reproduire un match plein et ça serait assez facile, entre guillemets, parce qu'on a l'ascendant psychologique. Mais ma raison me dit que cette équipe de Team USA est bien coachée. Cette équipe a commencé à travailler sur un vrai collectif, que Kevin Durant est le plus grand joueur du monde, que ça va être difficile d'arrêter tout ça. C'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi sur cette demi-finale que même s'ils sont dominés pendant une période, ils peuvent mettre un coup d'accélérateur. Ils avaient quand même 15 points de retard, hein, contre l'Australie. Et malgré ça, ils finissent à plus 20. Donc on se dit qu'ils ne s'avouent pas perdants à aucun moment, pas battus, qu'ils travaillent dur maintenant en équipe, qu'effectivement, c'est un peu long à l'allumage et ça peut être bénéfique pour les Français. Mais qui se sont fait avoir une fois. Donc, cette équipe a de la ressource, qu'elle est capable, avec encore une fois un grand coach, pas Serge Popovic, mais Greg, qui peut vraiment apporter des choses tactiques intéressantes. Ça sera difficile. Ça sera difficile, bien plus difficile qu'on l'imagine, et bien plus difficile que ce qui s'est passé sur la phase de poule. Pardon.
On réglera nos réveils, en tout cas, messieurs. 4h30 pour France-USA samedi matin. Donc, il ne faut pas se louper. Et puis, 14h15 pour France-Russie. En tout cas,
c'est à moi que tu mets un coup de pression. Il ne faut pas se louper à
14h30. A priori, Laurent, ça doit aller.
Trois réveils. En tout cas, qu'on gagne ou qu'on perde, on veut vous entendre, vous enflammer et nous régaler sur les antennes d'Eurosport. Merci d'avoir participé à l'Euro Olympique. On croise
Merci
les doigts et, on dit allez les Bleus.
Allez les Bleus. On est d'accord.
On passe à la séquence suivante, la question qui fâche avec Arnaud Tournant. La question qui fâche aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que la piste française se dirige-t-elle vers une grosse déception ? Pour en parler, on reçoit Arnaud Tournant, notre consultant, ancien pistard, aux côtés de Laurent Vergne et de Christophe Godeau. Messieurs, grosse déception jeudi avec Benjamin Thomas. On attendait l'or sur l'Omnium. Finalement, il termine quatrième.
Je vais prendre la parole parce que effectivement je viens de commenter la course et effectivement on attendait Benjamin Thomas. C'était un espoir de médaille, hein. C'était certainement la médaille sur laquelle on avait le plus de chance, le plus d'espoir, de victoire, même pas de podium. Là, on parlait du titre olympique. Et effectivement, Benjamin, c'est moins bien passé qu'à l'habitude. Il termine en plus à la plus mauvaise place, quatrième. Ça s'est joué dans la dernière épreuve. Il a été sur le podium, je pense, jusqu'à 20 tours de l'arrivée. Et sur une dernière action, il descend de ce podium. C'est rageant déjà pour lui parce que c'est un garçon qui le mérite, hein, qui a fait de nombreuses médailles au championnat du monde, qui a porté un peu cette équipe de France endurance. C'est rageant de le voir échouer, mais en même temps, le niveau mondial était aujourd'hui assez exceptionnel. Des garçons qui ont assuré, et c'est pas le seul qui est hors du podium et qui quand on prend le néerlandais Van Skip qui a aussi lui trusté les podiums mondiaux et qui est lui aussi dehors. Voilà, c'était la journée où il fallait être exceptionnel et Benjamin Thomas a juste été bon, on va dire ça comme ça.
Tu disais, il était sur le podium jusqu'à 20 tours, il était sur le podium jusqu'à 2 tours de l'arrivée, il s'est fait reprendre à la fin. Laurent, toi tu as suivi avec Christophe, c'est encore plus tragique la façon dont ça s'est déroulé.
Oui, alors c'est vrai qu'il perd officiellement sa place sur le podium entre 1 et 2 tours de l'arrivée, peut-être même sur la cloche, je ne sais plus, mais c'est vrai qu'on a senti, je pense que ce que voulait dire Arnaud, c'est que le mouvement qui est déclenché par le Néo-Zélandais, il est enclenché dans les 20 derniers tours et on, même si ça se joue à peu de choses, on sent qu'ils vont reprendre un tour et que donc il va avoir ses 20 points de bonus avec en plus les sprints qui étaient au milieu. Donc on avait compris quand même malheureusement depuis quelques tours que ça ne sentirait pas bon du tout pour Benjamin Thomas. Et c'est vrai que c'est une grosse déception parce que c'est lui qui avait dit « je viens pour l'or, si je termine avec de l'argent ou du bronze, ce sera une déception ». Donc, il aurait été déçu d'être sur le podium si ce n'était pas sur la plus haute marche. Là, il n'est même pas sur le podium. Donc, c'est vraiment une grosse, grosse déception. Moi, je ne sais pas ce qu'en pense Arnaud, mais j'ai l'impression que tout s'est joué plus que sur la course au point, sur l'élimination qui est la troisième épreuve. Parce qu'après les deux premières épreuves, il est très bien. Ils sont trois à égalité en tête du classement. Et dans l'élimination, donc on rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui ne connaissent pas bien l'Omnium, l'élimination, ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'on tourne et tous les deux tours, on élimine le dernier à couper la ligne et ainsi de suite. Et Benjamin Thomas a fini sixième, je crois, ce qui n'était pas dramatique en termes de classement, mais en revanche, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts parce qu'il s'est assez vite retrouvé à la limite. Et je crois qu'il y a 3-4 fois avant d'être éliminé où il est vraiment juste et donc il produit un gros effort. Et je me demande si dans la course au point, il ne lui a pas manqué cette énergie-là pour peut-être essayer de s'échapper, prendre un tour. Parce qu'on l'a vu avec Viviani et avec Stuart Campbell, c'était décisif de prendre un tour pour s'assurer une place sur le podium, à part pour le Britannique qui lui était largement devant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arnaud. Mais...
Si, c'est totalement ça. En fait, ce qui est rageant, c'est que on commence cette épreuve d'Omnium, c'est quatre épreuves en tout. On commence par la course au scratch que Benjamin Thomas maîtrise parfaitement, c'est son point fort. J'ai pas souvenir de l'avoir vu se louper sur une course au scratch. Il se positionne idéalement, il monte déjà sur le podium, il se met à l'abri, il prend un tour d'avance, donc il assure vraiment, il joue la sécurité. Derrière, on a la course tempo. où là on marque un point seulement sur le premier coureur à couper la ligne. Donc c'est une course qui est hyper usante, c'est celle-là qui fait mal aux jambes, et même sur celle-là il arrive à aller chercher les points. On a Vance Kipp qui voilà, qui joue au chat et à la souris avec le peloton, qui va remporter cette épreuve-là en particulier, mais derrière lui c'est Benjamin Thomas qui marque le plus de points. Donc là encore Benjamin Thomas est présent sur la deuxième épreuve. Et la troisième épreuve, qui est une épreuve piège, parce qu'effectivement, on élimine tous les deux tours le dernier à franchir la ligne. Benjamin Thomas, il faut savoir, pour ceux qui voient régulièrement ses courses sur Eurosport, c'est un garçon qui prend les devants, se pose devant le peloton, emmène un rythme, il fait bien sûr les efforts parce que c'est à lui de maintenir cette vitesse et il prend le vent. Et il, voilà. Mais il a cette position où je me mets devant, allez, j'envoie la sauce, et puis derrière, sa bataille. Et puis voilà, en général, dans les 3-4 derniers, il est là, il est un peu émoussé, mais il est présent et il marque des gros points. Là, ce qu'on a vu sur cette épreuve, eh ben, ce n'est pas le Benjamin Thomas qu'on peut voir habituellement. C'est peut-être là où il a laissé l'énergie qui lui a manqué sur la course au point, parce qu'on ne va pas dire qu'il a fait une mauvaise course au point. Il a été faire des classements, il a essayé de s'extraire du peloton plusieurs fois, il a même pris un tour sur le peloton. Donc, on ne peut pas dire qu'il fait une mauvaise course au point. Mais tout simplement, dans les 20 derniers tours, là, quand le Néo-Zélandais emmène son action pour prendre un tour au peloton et pour monter sur le podium et indirectement faire descendre Benjamin Thomas, eh ben, cette énergie... On voit Benjamin Thomas qui essaye d'y aller, et en se rasseyant sur la selle, on comprend qu'il n'y a plus rien dans les jambes, qu'il est vide. Et cette force qui lui manque, à mon avis, et ça ne reste que mon avis, mais c'est tous les efforts qu'il a dû faire sur la course à l'élimination, parce que d'habitude, plutôt que d'assurer ce tempo, il a dû batailler sur les sprints, revenir, enchaîner.
Ouais, c'était dur.
Et ça, sur l'élimination, ça dure. Allez, pour les grands champions, on peut faire 6 sprints. Et au bout de 6 sprints, ça explose, et c'est ce qui est arrivé.
Si on élargit un petit peu, aujourd'hui, il y avait aussi le Kering Dam et la vitesse. Grosse déception pour Mathilde De Gros et Sébastien Vigier. J'en reviens à cette question qui fâche. On en attendait peut-être trop de la vitesse. Et du coup, on peut pas non plus leur cracher complètement dessus, parce que c'est les seuls qui ramènent une médaille en vitesse par équipe. Mais on en attendait un peu plus. Christophe.
Mais en fait, c'est cette médaille de bronze en vitesse par équipe qui a un peu changé la donne. On les imaginait pas forcément là. Les trois de la vitesse par équipe, ils débutaient ensemble dans une grande compétition internationale. Donc cette médaille de bronze, elle est vraiment exceptionnelle. Et de ce fait, on s'est dit qu'en vitesse individuelle, peut-être qu'il y avait quelque chose à jouer. Et Ryan Elal sort en 32e de finale, il passe pas en repêchage. Et Sébastien Vigier, ça a été compliqué. Il est passé en 32e assez facilement, mais derrière, il se fait sortir en 16e, il sauve sa place en repêchage. Il se fait sortir en 8e, il sauve sa place en repêchage. Et en quart, face au Néerlandais, ça passe pas. En fait, on l'a vu, il était vraiment un tout petit peu juste par rapport au vraiment aux meilleurs mondiaux. Il se fait sortir par le Néerlandais, il se fait sortir par Webster. Voilà, ça, c'est de très haut niveau mondial.
Et Mathilde De Gros, c'est pareil, c'était un espoir, même si le Kering a toujours une part de loterie. C'est une déception aussi, Arnaud.
Oui, alors je te remercie Adrien, je vais encore me faire plein d'amis dans le monde du cyclisme.
Tu dis ce que tu veux, personne ne
te connaît. Non, mais ceux qui me connaissent le savent, voilà, il faut appeler un chat, quand on gagne, on est toujours très content, mais quand on perd, il faut accepter aussi la défaite. C'est là aussi où on voit les vrais champions. C'est facile comme ça d'extérieur de dire ah ben, il s'est loupé, il a réussi. Oui, c'est très facile, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui c'est pas qu'on a envie de critiquer Mathilde, c'est pas qu'on a envie de critiquer Sébastien ou même Ryan. Cette équipe de France, elle est jeune, elle manque d'expérience, elle est aussi dans un contexte qui fait que ces derniers mois on a eu quasiment aucune compétition. L'équipe de France, ça fait plus d'un an qu'on ne l'a pas vue sur la scène mondiale. On ne l'a pas vue au championnat d'Europe en Hongrie au mois de novembre 2020. On devait avoir les championnats d'Europe là, 15 jours avant les JO, ils ont été annulés. On n'a pas eu de championnat de France, ils auront lieu juste derrière les Jeux. Donc c'est vraiment difficile parce qu'on arrive sur ces JO Tokyo dans une inconnue totale. Aujourd'hui, ce qu'on peut, comme ça d'extérieur, tirer comme bilan, c'est qu'effectivement, Mathilde, elle doit être au-dessus de son niveau. On ne peut pas se satisfaire de cette non-qualification, même pour une petite finale. Elle se fait sortir en quart de finale. Avec les qualités et les choses qu'elle nous a déjà montrées, ce n'est pas être méchant avec elle, c'est de se dire aujourd'hui, Mathilde, non. Maldite, Mathilde Gros, ça doit être une ténor. OK, on a beau nous parler de génération Paris 2024, mais Paris 2024, ça ne va pas juste se dérouler en 2024. Il faut le préparer, il faut tester le haut niveau. Il y a des filles qui ont son âge et qui sont aujourd'hui, même peut-être en petite finale, qui sont pour certaines en grande finale. Elle n'a rien à envier physiquement. Elle a autant de qualité que ces filles-là. Par contre, elle n'est pas là. Et c'est là la question qu'il faut se poser, c'est que le problème, il n'est pas physique, il n'est pas matériel parce que la fédération a investi énormément dans la préparation et dans l'accompagnement des athlètes. Ça, je pense qu'on nous en a assez parlé pour le savoir aujourd'hui. Par contre, il reste un problème, c'est que malgré ces investissements, malgré ces athlètes de qualité, malgré cette jeune génération qui a tout à construire, eh bien, le résultat, il n'est pas là, lui. Donc, ouais, on est observateur, on est extérieur, c'est facile.
Alors, c'est quoi ? C'est la tête ? C'est l'encadrement ? C'est quoi ?
Ça, c'est la grande question. Je lisais un article d'un grand quotidien français hier, qui n'est pas forcément un quotidien sportif, où apparemment, l'équipe de France cherche un manager qui serait capable de gérer les égos. Quand vous avez le monde journalistique qui annonce ça, c'est pas moi, hein. Le quotidien, c'est Le Monde, hein. Donc c'est pas le petit papier régional. On est quand même sur un grand média qui annonce que l'équipe de France cherche un manager pour gérer les égos. Ben, quand on fait la traduction, on se dit ouais, ils doivent pas forcément bien vivre ensemble. Ça doit pas être tous les jours facile, que ce soit entre les athlètes ou peut-être les athlètes, les entraîneurs. Mais on comprend qu'il y a quelque chose. Donc, je pense que c'est pas le vélo qui est en question, c'est pas la politique fédérale qui est forcément à remettre en cause. C'est qu'à un moment, effectivement, si déjà on nous annonce ça, il doit y avoir un problème quelque part. Et il faut pas oublier, hein, se séparer de son entraîneur principal au mois d'avril, sachant qu'on dispute les Jeux au mois d'août, je crois que la réponse, elle est faite.
Vas-y, Christophe, tu veux rajouter.
Mais dans un passé récent, il y avait aussi des gros égos. On pense à Grégory Boget et François Pervis. C'est quand même deux énormes égos et deux énormes palmarès. Et ça ne posait pas de problème à ce moment-là.
Oui, mais qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est que c'est des garçons qui avaient plus d'expérience, qui étaient plus avancés. Ils n'ont pas 22 ans, ils n'avaient pas 24 ans. Aujourd'hui, tu prends cette équipe de France sprint, c'est 20 ans, 22 ans, 22 ans, 24 ans. Voilà. François Pervis, quand il est triple champion du monde à Cali, il a quasiment 29 ans, 30 ans. Grégory Boget, il vient de prendre sa retraite. Si je ne me trompe pas, il doit être pas loin des 34, 33, 34. Voilà ce qui fait la différence. Et c'est aussi une génération qui est issue de celle dont je faisais partie, où effectivement, si je prends mon cas perso, et là je vais prendre mon exemple, c'est plutôt un exemple, c'est pas un cas perso. Moi, quand je suis rentré en équipe de France, j'avais des éléments moteurs comme Florian Rousseau, comme Frédéric Magnier, comme Félicia Ballanger. Et c'est des gens que je regardais avec respect et qui m'ont poussé à donner le meilleur de moi-même. Aujourd'hui, cette jeune génération, peut-être qu'elle manque de ses repères, peut-être qu'elle n'a pas assez appris de ses anciens, entre guillemets. Et peut-être qu'aujourd'hui, quand on arrive au haut niveau et qu'on a besoin de conseils, qu'on a besoin d'approches, peut-être qu'il manque quelque chose.
Si on essaie quand même de tirer une note positive sur tout ça et sur ces fins de jeu, est-ce qu'il y a encore une médaille à aller chercher ? On sait qu'il y a la course à l'américaine homme et femme, il y a le Kérin homme. Est-ce qu'il faut y croire pour essayer de terminer sur une bonne note ?
Ouais, on va éviter de se mettre la corde au cou tout de suite. Hein. Il reste effectivement de belles choses. Je voudrais juste revenir sur cette première partie de JO parce que ça ne sert à rien de noircir un tableau plus que de raison. On a eu une poursuite par équipe où les filles ont battu 3 fois le record de France. C'est une équipe qui partait de 0. Elles sont présentes sur ces jeux, elles font partie des 8 meilleures équipes mondiales, elles ont plus qu'assuré leur rang. Cette médaille de bronze en vitesse par équipe, elle a une vraie saveur, elle a une vraie qualité parce que derrière il y a beaucoup de grandes nations qui elles ne sont pas sur le podium. Je pense notamment à l'Australie que l'équipe de France a affronté en petite finale. Faut pas oublier que l'Australie, c'est aussi dans leur tradition d'aller chercher cette médaille en vitesse par équipe. On a connu des grandes générations. Ils ont eu les Jeux assignés chez eux. Donc voilà, il y a aussi cette approche-là. Effectivement, on va pas noircir le tableau parce qu'il nous reste des belles choses à faire, notamment les filles qui faisaient partie de cette poursuite qui vont se présenter sur l'américaine. Là aussi, on sait qu'il y a toujours une part de hasard, qu'il y a toujours des faits de course qui peuvent perturber des équipes qui seraient au-dessus du lot. Oui. Et nos Françaises, elles peuvent très bien figurer, sans parler d'outsider ou de favori, elles peuvent très, très bien figurer. On a vu que Benjamin Thomas, aujourd'hui, ça ne suffisait pas, mais on va le revoir sur l'américaine et il existe des jours où on est bien et des jours où on est moins bien. Espérons qu'aujourd'hui, c'était un jour moins bien pour que le jour de l'américaine, ce soit un bon jour. Il reste le Kérin masculin. Là aussi, toujours une partie de hasard. Et moi, je veux croire en la qualité de nos athlètes. Il reste la vitesse individuelle pour Mathilde, à elle de nous prouver que le Kérin n'était qu'une mauvaise impression.
Merci Arnaud, merci Christophe et Laurent pour cet éclairage sur la piste française. On passe tout de suite à la séquence suivante.
C'est le moment de la séquence Retour de Tokyo. Aujourd'hui, c'est un immense honneur d'avoir Samir Aït Saïd parmi nous. Comment ça va, Samir ?
Bonjour, écoutez, ça va très bien. Heureux d'être de retour en France, ça fait du bien. Le séjour japonais a été très long.
Très long, ouais. On vous a quitté à Tokyo, déçu évidemment. Quatrième aux anneaux, vous avez évidemment porte-drapeau de la délégation. Qu'est-ce que tu retiens de cette séquence olympique ?
En ce qui me concerne, ça a été quand même un très bon moment. Voilà, j'ai prouvé que je pouvais rivaliser face aux meilleurs. Troisième des qualifications avec quelques petites erreurs. Malheureusement, le sort s'est encore acharné avec cette blessure qui arrivait 3 jours avant la compétition. On s'y attendait pas, on était prêt, on était serein et cette blessure a tout foutu en l'air, au point de déclarer forfait et il était inenvisageable pour moi d'abandonner. Voilà, on connaissait les risques, on savait que ça pouvait péter. Maintenant, personne ne pouvait prendre la décision à ma place. J'ai voulu la faire. Voilà, j'ai voulu me battre jusqu'au bout et interdiction d'abandonner.
C'est ça l'esprit olympique. On a vu hier Renaud Lavillenie sauter à la perche avec une blessure déjà à la cheville gauche plus le talon droit. Et l'exemple type, toi, d'y aller justement avec cette double déchirure au biceps gauche, c'est vraiment l'esprit olympique, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs.
Honnêtement, si c'est une finale olympique, peu importe ce qui se passe, hein, on y va. Et puis, on n'est pas tout seul. On représente aussi un pays derrière qui nous pousse, qui nous aide à nous transcender. Voilà, toutes les personnes qui croient en nous, qui nous poussent pour être plus forts. On ne peut pas abandonner tout ça. On peut pas. C'est impossible que les gens se soient donné corps et âme pour abandonner le jour J. Voilà, nos partenaires qui nous ont aidés à nous préparer pour abandonner. Non, interdiction. Et puis, de toute façon, ce mot-là, il n'est pas dans mon vocabulaire. Abandonner, c'est pas Samir Aït Saïd. Voilà, je préfère perdre plutôt qu'abandonner. Voilà. Moi, j'ai entendu dire oui, mais valait mieux pas faire parce que au moins, tu avais une excuse. Mais je m'en fous des excuses. Je n'ai aucune excuse. Je n'ai aucune excuse. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Je préfère perdre que d'abandonner. Je n'ai pas peur de perdre. C'est sûr que si j'avais déclaré forfait, j'aurais pas perdu. J'aurais pas fait quatrième. On aurait dit, ouais, Samir était troisième en finale. Non, je m'en fous, en fait. Je m'en fous, j'abandonne pas. Je préfère perdre.
Samir, tu parlais de mots interdits dans ton vocabulaire. On a l'impression que la fatalité aussi, c'est quelque chose qui t'est complètement étranger. Ton destin olympique, il est perturbé. On va parvenir sur ce qui s'est passé à Rio. Et pourtant, on a senti évidemment beaucoup de déception, mais dès la suite, tu t'es projeté sur 2024. Comment tu expliques le fait que voilà, tu n'as pas du tout envie d'abandonner ce destin olympique-là?
Jamais. Je vous ai dit que je suis formaté pour aller chercher cette médaille olympique. Rappelez-vous ce que je vous avais dit à Rio. Je serai là à Tokyo. J'irai chercher cette médaille. Malheureusement, ça en est manqué de peu. Voilà. Maintenant, si aujourd'hui, je vous dis, on se revoit à Paris. Et de toute façon, j'ai une histoire qui est particulière avec les jeux, n'est-ce pas?
Ouais.
Et ben, vous allez voir que le livre, il va se finir sur une très belle page. Et en plus de ça, à la maison. J'ai commencé le sport à Paris. Je vais terminer ma carrière à Paris avec la médaille olympique. Voilà. Je vous donne ma parole.
Samir, je me souviens, je t'avais vu aux Étoiles du Sport à Tignes il y a un an et demi, je crois, c'était fin 2019. Donc, à l'époque, on ne savait pas que les Jeux allaient être reportés d'un an. Donc, on était à peu près à 7-8 mois des Jeux. Et à l'époque, ce qui m'avait frappé, c'était une forme de certitude qui t'habitait. Et cette certitude, on l'avait retrouvée, comme tu le dis, dès Rio. C'est-à-dire, malgré ta grave blessure, tu avais ça en tête. Je serai à Tokyo pour me battre pour une médaille. Là, on entend le même discours avec ce qui t'est arrivé à Tokyo par rapport à Paris. Ça, c'est quelque chose qui est inné chez toi ou que tu as construit petit à petit dans ton parcours? D'où ça devient ça?
En fait, moi, mes parents m'ont toujours appris à me battre pour obtenir quelque chose, que ce soit dans le milieu du sport ou dans le milieu professionnel ou même scolaire. Il a fallu que je me batte. Et ça, je pense que c'est quelque chose que c'est pas que je veux développer, non, mais c'est que je veux prouver à tout le monde que quand on en rêve, on peut rêver, mais ça viendra pas en claquant des doigts. Il faut se battre pour obtenir ce que l'on veut. Et voilà, moi je suis habité entre guillemets par cette médaille olympique. Je l'ai dans mon cœur déjà et je veux qu'elle soit autour de mon cou. Maintenant, rêver c'est beau, mais faire c'est mieux. Voilà pourquoi je ne lâcherai jamais cet objectif de ma tête tant que je ne l'aurai pas. C'est pas Samir, c'est pas moi.
Moi, j'ai une autre question un peu de profane par rapport à ta finale et ta blessure. Un œil qui n'est pas avisé comme le mien, je ne suis pas un spécialiste de la gymnastique, quand je regarde ta finale, je ne vois pas que tu es diminué. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, sur quel mouvement, sur quel type de mouvement, ça te pénalise cette blessure-là? Et qu'est-ce que ça te fait perdre en termes de points, ça, qu'est-ce que tu aurais pu faire comme performance si tu n'avais pas été blessé?
Alors, honnêtement, cette douleur, je crois qu'elle a été pendant une minute, je ne sais pas combien a duré mon mouvement, mais cette douleur, elle a été de 11 sur une échelle de 10. Ça a été horrible du début jusqu'à la fin. Quand mon coach me lève pour attraper les anneaux, au moment où je vais attraper les anneaux, poignard. Et là, j'ai commencé à me dire, ça va être très, très long. Ça va être très, très long. Et à chaque fois que je faisais une force, je sentais vraiment sur mon biceps, ça faisait crac, crac. Comme une fermeture éclair. Ça faisait pareil, crac, crac. Et là, je me suis dit, mais à quel moment ça va lâcher? Et en fait, il était hors de question de montrer ce signe de faiblesse à mes adversaires. Mais ils l'ont remarqué, mine de rien, parce qu'ils ont vu que je n'étais pas échauffé. C'est ça que je me
demandais. Est-ce qu'un œil avisé le voit?
Ils l'ont vu. Ouais. Ils l'ont vu parce que pendant qu'eux s'échauffaient, moi, j'étais avec le staff médical en train d'essayer de calmer cette douleur. Donc, ils se sont dit, mais attends, mais pourquoi lui, il ne s'échauffe pas? Et ils ont capté quand le kiné m'a fait un garrot à la fin. Je les voyais parler en se montrant, en se touchant l'épaule. Et oui, ils ont vu. De toute façon, c'est comme si tu regardes la perche et que tu te dirais, bah, regarde, Renaud, il ne s'échauffe pas. Tu le vois avec le staff médical, tu te poses des questions. Bah, c'est exactement pareil. et j'ai pas pu m'exprimer à 100% parce que quand j'appuyais, je compensais vachement avec l'autre épaule. J'appuyais plus sur la droite que sur l'autre. Donc, c'est comme si je te demande de me mettre une claque, mais tu peux pas faire ça pour mettre la claque, tu es obligé de faire ça. Tu vas moins me faire mal, tu seras moins puissant. Bah, c'est exactement pareil sur les anneaux.
11 sur 10, moi, 3 sur 10, j'arrête tout. Alors, je n'ose même pas imaginer le.
Ça, c'est ce que tu penses. Ça, c'est ce que tu penses. Peut-être que si
non, mais Maxime, il ne monte même pas sur les anneaux.
Les anneaux, je pense finale des jeux. Non, y a, franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Honnêtement, tout le monde dit ouais, c'est ouf ce que tu as fait. Mais je pense que beaucoup auraient fait la même chose
avec l'adrénaline.
Une finale des jeux, beaucoup auraient fait pareil.
Moi, le plus dur, c'est d'arriver en finale des jeux. Ça, c'est ça le problème.
Ah, ça, mais ça, c'est aussi. Ça a été pareil pour moi. Hein. Ouais. Ça a été pareil pour moi. Mais après, je me suis dit, je suis en finale des jeux avec l'adrénaline, je ne vais pas sentir la douleur. Et en fait, non, c'était pas vrai. Malheureusement, dommage.
Je voudrais revenir sur un autre moment fort de tes Jeux Olympiques. Évidemment, la cérémonie d'ouverture, porter le drapeau, qu'est-ce que tu as ressenti en arrivant dans le stade?
Une fierté immense. Je suis quelqu'un qui est très patriote. Et déjà, porter le maillot de l'équipe de France, c'est un honneur. Alors là, porter le drapeau, défiler avec le drapeau, être porte-drapeau, c'est un pur kiff. On a vécu ce moment à fond. On a adoré et on s'est pas pris la tête. Ça a été vraiment bonne ambiance. On m'a chauffé pour en faire un salto. J'ai fait mon salto et ensuite de ça, on a fini en apothéose en chantant cette Marseillaise haut et fort en plein milieu du stade olympique. C'est énorme.
J'avais une question sur le salto, justement. Je veux savoir s'il était prémédité. Donc, j'ai l'impression qu'il n'était pas prémédité, mais qu'on t'a bien chauffé.
Non, je ne suis pas parti. Dans le bus, je ne me suis pas dit, bon, je vais faire un salto. Non, non, non. Ça s'est fait tellement naturellement dans l'ambiance, en fait. Au début, on se faisait un battle avec les Américains qui étaient juste devant. Ils chantaient tout ça. Et nous, on a chanté encore plus fort la Marseillaise. Voilà, en fait, c'était. Bon, et quand on rentre, vas-y, tu fais quoi, Sam? Tu fais un salto? Vous voulez que je fasse un salto? Je vais faire un salto. Il n'y a pas de problème. Non, non, ça a été vraiment bonne ambiance. Rien de prémédité. Tout à l'instinct. Ça a été franchement un moment magique. Magique.
Je pense que c'était le premier à faire un salto dans cérémonie d'ouverture.
Ouais, je pense aussi.
Je pense avoir jamais vu ça. Hormis dans les spectacles, évidemment. Mais sur les athlètes, je pense que c'était le premier.
Et quand est-ce que tu avais appris, enfin, pas quand est-ce, mais. Comment tu as appris que tu allais être porte-drapeau? Qui te l'a annoncé? Comment ça s'est fait? Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as ressenti à ce moment-là?
C'est la présidente du CNO qui m'a appelé un soir en me disant j'ai l'honneur de t'annoncer que c'est toi le porte-drapeau. Et là, j'allais coucher ma fille. J'étais en train de jouer avec ma fille. Il était assez tard, je crois. Je ne me souviens plus de l'heure exacte. Mais j'allais la coucher. Et là, le téléphone sonne. Je suis resté choqué. Et là, je lui ai dit, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de numéro? C'est Sam que vous avez au téléphone. C'est Samir. C'est ni Renaud Lavillenie, ni je ne sais pas qui. C'est Samir. Oui, oui. Et là, je fais, oh, c'est énorme. J'ai regardé ma compagne. Je lui ai dit, c'est moi le porte-drapeau. Ils ont dû se gourer. C'est pas possible. Pourquoi moi? C'est qui moi? Samir, porte-drapeau. Donc, non, ça a été. J'ai eu du mal à réaliser. Hein. Franchement, j'ai eu du mal à réaliser. Même là, quand on me dit c'est toi qui as été porte-drapeau, c'est génial. Ah, c'est un pur bonheur. C'est une fierté pour moi. C'est une fierté. Voilà, c'est une fierté.
Moi, j'ai une petite dernière question un peu plus quotidienne et plus. Voilà, on a été tous très impressionnés par le concours des anneaux. C'est un sport de malade mental de l'extérieur. C'est quoi ton quotidien en entraînement, le nombre de pompes? Je ne sais pas si ça se quantifie comme ça, mais ton programme pour. Pour développer cette musculature-là, comment ça se forge?
Parce que Cyril, il veut s'y mettre, en fait.
Ouais, bien sûr, je vais essayer, mais je pars de
loin. Alors, ma semaine type, en fait, pour une préparation, déjà tous les matins, je ne suis pas dans la salle de gym. Je fais beaucoup de boxe ou de jiu-jitsu brésilien, ou même de course à pied. Donc, tous les matins, c'est soit je suis au dojo, soit dans le ring, ou soit sur la piste. Et les après-midi, là, je fais vraiment que du spécifique anneaux. Où là, voilà, je fais un travail de force sur les anneaux avec la croix de fer, les avions, tout ce que je travaille. Et après, j'ai inventé une figure et elle m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire avant de la présenter aux Jeux Olympiques. Et donc, voilà, je travaillais vraiment à fond. J'avais facilement 35 heures par semaine de taf. Mais voilà. Donc le matin, prépa physique, travail de foncier sur la piste avec voilà, avec des sprints de longue distance, ou alors boxe, jiu-jitsu brésilien, et après-midi, salle des champs. Okay.
Merci Samir, merci beaucoup d'être venu, immense plaisir. J'ai envie de te dire, on se retrouve ici dans 3 ans, même, peut-être pas même jour, mais à peu près même moment, et avec évidemment la médaille.
Oui, parce que là j'ai la médaille en chocolat.
C'est pour dans 3 ans.
Premier.
Je parle merci pas beaucoup dans le Samir.
Merci bientôt. Salut.
L'Euro Olympique. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces différents échanges. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous noter sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et à vous abonner également, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Merci à tous d'avoir participé et on se dit à demain. Salut !